me a cigarette then. Give me a cigarette.
Salut la compagnie et bienvenue sur le Lloydcast épisode 11. Aujourd'hui, pour commencer cette nouvelle dizaine, et comme je l'ai déjà dit, je vais davantage inviter des personnes de la société civile et pas que des artistes. Et pour commencer, j'ai la grande chance de recevoir une fille qui se considère comme les autres, mais à la fin de cet épisode, tu te rendras compte qu'elle n'est pas tout à fait comme les autres. C'est une femme de combat. Elle est jeune et c'est à se demander si, selon son parcours, elle n'est pas amenée à faire partie des Avengers. Bon, si déjà je te dis qu'elle vient de courir 47 km alors qu'elle n'est pas marathonienne, bon, c'est quelque chose. Si en plus je te raconte qu'elle se bat contre le cancer depuis plus de 20 ans et qu'elle gagne à chaque fois, alors là tu comprends que Hulk en fait il est pas vert, il fait dans le 1m60 et doit pas peser beaucoup plus que 50 kg et en fait il s'appelle Laura Fontaine. Laura Fontaine, bienvenue.
Salut Lilian.
Est-ce que ça te va comme présentation?
Avengers, je sais pas. En fait, franchement, honnêtement, je connais même pas spécialement les Avengers.
Alors voilà, c'est plutôt des super-héros, des super-héroines, qui ont chacun des super-pouvoirs. Je trouve que t'as un super-pouvoir, et j'ai l'impression que ton super-pouvoir, c'est la vie.
Ben oui, la vie, c'est tellement merveilleux. Enfin, cette ivresse du bonheur, en fait, qu'on peut avoir continuellement, parce que... Enfin, la vie, le bonheur, c'est tout simplement des petites choses simples, en fait. C'est toutes ces petites choses simples qu'on peut avoir au quotidien et qui font la vie en général.
Mais comment toi, à travers tout ton parcours, même si on va le développer, t'arrives justement à avoir cette espèce de grande force, de grande croyance, cette énorme résilience qu'il y a au fond de toi?
Franchement, j'en sais rien. Enfin, je me suis jamais réellement posé la question, même si on me l'a déjà posé. Enfin... C'est peut-être il y a la force de caractère, mais après il y a l'amour aussi des proches en fait qui sont là pour soutenir, parce que c'est clair que sans l'amour des proches on n'avance pas.
Nous deux on s'est rencontrés via le biais de la chaîne, je sais plus si c'était la chaîne Rose ou si c'était Rose Magazine.
Quelque chose comme ça, je crois que c'était pour la chaîne Rose, il me semble.
Ouais, voilà. Ouais. Donc la chaîne Rose, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un site internet où il y a beaucoup de contributeurs en fait, qu'on s'appelle comme ça, qui sont à la fois des personnes qui sont atteintes par le cancer, qui viennent faire un témoignage, et aussi des personnes comme moi qui était le premier contributeur accompagnant à avoir écrit un texte, parce qu'à l'époque, avec Émilie, qui était mon amie, qui était malade, moi j'avais écrit des textes dessus, et nous on avait créé effectivement une association qui s'appelle Soyons Cheyenne. Et toi, tu as été très aussi impliqué dans une autre association qui s'appelle On est là.
Exactement, oui, On est là, une association qui vient en aide, enfin plutôt qui soutient les adolescents et jeunes adultes malades du cancer. Donc ça peut un peu paraître discriminatoire parce que du coup, cette association-là cible les 13-30 ans. Et en fait, c'est que quand l'association a été créée, elle a été créée par 5 anciens patients, tous autour de la vingtaine. Et le constat qui a été fait, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se font en pédiatrie. Donc pour les petits, beaucoup de choses, enfin pas mal de choses qui se font pour les personnes plus âgées. Et cette tranche d'âge-là, qui déjà en temps normal est assez charnière, on parle de l'adolescence, hein, donc c'est pas toujours tout rose, tout beau, tout rose. La vie de jeunes adultes, donc la fin des études, l'emploi, enfin voilà. Et donc en plus, quand on apprend en fait qu'on a un cancer, c'est encore plus, concrètement, c'est encore plus bordel dans notre tête, quoi. Enfin, surtout quand on est ado, je pense. Mmh. Et du coup, cette association-là permet vraiment de de créer une grande communauté pour les patients et anciens patients qui se battent ou qui se sont battus entre guillemets contre le cancer.
Et c'est une association qui est nationale, c'est ça? Il y a plusieurs antennes départementales ou régionales?
Exactement. L'association a débuté sur Paris parce que les cofondateurs, la plupart étaient sur Paris. Moi, étant de Bordeaux, du coup, j'ai ouvert l'antenne bordelaise. Et il y a aussi une antenne sur Lyon et une antenne qui débute sur Marseille, actuellement.
Et est-ce que, ne serait-ce que pour Bordeaux, puisque c'est ta ville et c'est là où toi tu officies, est-ce que tu sais le nombre de jeunes, enfin d'adolescents et de jeunes donc qui sont dans cette association, enfin et que vous recevez et que vous aidez?
Alors là, aujourd'hui, on en a 31. Ouais. On est sur 31, donc jeunes de 13 à 30 ans. Après, c'est vrai que les 13-14, on n'en a pas tant que ça, mais voilà, on en a plus en fait autour de la vingtaine, quoi. Surtout autour de la vingtaine. Mais sur Bordeaux, on intervient à l'Institut Vergonnier et à l'Hôpital des Enfants. Donc l'Hôpital des Enfants, par contre, c'est un service de pédiatrie. où il y a uniquement que des cancers ou des leucémies. Et là, la pédiatrie, ça va de 0 à 18 ans. Et c'est vrai que le jeune, moi-même, j'étais dans cette situation-là quand on a 16 ans et qu'on partage sa chambre avec un enfant de 2 ans. Enfin, et qu'il y a des clowns en plus de ça qui viennent rentrer dans nos chambres. Non, dans notre chambre, non, c'est juste pas possible, quoi. Et c'est vrai qu'on est là pour sortir ces ados qui côtoient des enfants, des clowns toute la journée et qui ont simplement en fait de rester uniquement entre ados, quoi, de parler des choses d'ados, quoi. Donc on est là un peu l'idée, c'est de les sortir un peu de leur isolement, quoi.
Alors, avant d'aller plus loin, il y a une première tradition, il y en a deux traditions dans ce podcast. Qu'est-ce que tu bois? Et comme c'est virtuel, tu peux choisir la boisson que tu veux.
Mais écoute, moi je crois que je vais choisir un thé. C'est vrai que bon, vu l'heure qu'il est, ça peut paraître étrange, mais je sais pas, histoire d'achever justement ce long week-end de Pentecôte dans la continuité en fait du mariage princier, j'ai envie de boire un petit thé dans ma petite tasse fétiche.
Alors effectivement, ton parcours, quand on a préparé cet épisode, toi et moi, tu m'as dit que ce que tu as donc tu as 20, tu viens d'avoir 28 ans, c'est ça?
Ouais, exactement.
Et tu t'es dit, tiens, dans la vie, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un cancer par dizaine d'années.
Bah ouais, enfin voilà, disons que j'ai eu le premier, j'avais même pas 4 ans, après j'en ai eu un à 15 ans, et après hein, 23 ans, donc voilà, là je viens d'avoir 28 ans, et c'est vrai que bah, je me dis, je suis au moins tranquille pendant 2 ans, je pense. Et parce qu'apparemment, voilà, la maladie, elle revient à chaque décennie, donc je me dis, là, je peux me la couler pépère pendant 2 ans, et puis on verra après bah, ce qui se passe, quoi. C'est comme ça.
Est-ce que tu penses le fait d'avoir vécu la maladie si jeune, ça fait en sorte que, en fait, pour toi, c'est comme ta normalité presque, comme ton quotidien. C'est horrible à dire, hein, mais est-ce que quelque part, c'est pas un petit peu ton quotidien et alors qu'il y en a d'autres qui, lorsque ils apprennent un cancer, je sais pas, tu vois, plus tard. À 25, 30 ans, 35 ans, même si ça reste toujours très jeune, malheureusement. Et ça peut être ressenti comme quelque chose, un véritable trauma. Et voilà, moi je l'ai vécu aussi. Mais quand ça arrive plus jeune, est-ce que toi, tu as des souvenirs quand ça a commencé à 4 ans
Moi, à 4 ans, j'ai vraiment, enfin, j'ai très très peu de souvenirs. Les souvenirs que j'ai, en fait, c'est parce qu'on me les raconte. Et c'est vrai qu'entre deux de mes chignots, bah, j'ai eu le plus beau cadeau qu'on peut avoir. Je suis devenue grande sœur. Et voilà, après, les souvenirs que j'ai, c'est on me les raconte et je regarde l'album photo. Mais c'est tout, quoi. Mais c'est vrai qu'après, bah, adolescente, oui, je me souviens de tout, limite de chaque seconde. Enfin, ça dépend. Je peux pas dire chaque seconde parce que quand t'es sous morphine et tout, enfin voilà, t'es dans les vapes, tu t'en souviens pas de ça. Mais sinon, oui, après le reste, je m'en souviens très très bien, quoi. Mais enfant, non. J'ai pas. Enfin, si, j'ai juste été traumatisée par les clowns, même enfant. Mais sinon, voilà.
Alors j'ai compris qu'il y avait un petit problème avec les clowns.
Ah, un gros problème avec les clowns.
Alors tu te parlais de la famille, de...
Bien sûr, enfin la famille pour moi c'est 50% de la guérison en fait. C'est vrai que le soutien des proches c'est vraiment, enfin c'est quelque chose de fondamental. On ne peut pas passer à côté. Et malheureusement il y a des personnes qui n'ont pas la chance, toute cette chance inouïe en fait que j'ai eue d'être entourée de mes proches, que ça soit la famille, que ça soit l'entourage, enfin les amis. J'ai eu, c'est vrai, cette chance vraiment, vraiment énorme. Et puis, bah oui, pour chacun de mes cancers. Et après, voilà, si je suis là aujourd'hui, bah, enfin, c'est un peu, enfin, voilà, je vais pas dire d'ânerie, mais c'est un peu la loterie. C'est vrai que j'ai eu cette chance-là, en fait, moi, de m'en sortir, parce que c'est vrai que surtout le dernier était quand même à un stade vraiment très, très avancé. Voilà, je parle pas de stade 1, 2, 3, 4, enfin, on n'est pas là pour dire,
Bien
enfin
sûr,
voilà,
il n'y a
moi
pas
j'ai
d'échelle,
encore
ouais, comme
deux,
ça.
enfin, voilà, y a pas d'échelle, un cancer, c'est un cancer. Mais moi, voilà, en fait, quand j'ai été diagnostiquée, que ça soit pour le premier, le 2 ou le 3, enfin, on m'a dit, bah oui, c'est grave, mais il y a quand même, on peut s'en sortir. C'est pas dit, mais on peut s'en sortir. Et moi, j'ai eu cette chance-là de m'en sortir. Et donc c'est génial. Après voilà, je sais très bien que c'est pas tout le monde n'a pas cette chance-là malheureusement. Et il y a des cancers aussi dès le début quand ils sont diagnostiqués. Et ben ils vont faire un entraînement, mais ils le savent dès le départ en fait que ça va être voué à l'échec. À moins qu'en un an, bah, la médecine fasse des énormes progrès. Mais voilà, ça c'est pas dit non plus quoi. Et moi dès le départ, voilà, j'ai eu en gros 50% de chance. Bah oui, Laura, tu vas peut-être pouvoir t'en sortir quoi. Et c'est vrai que bah j'ai oui bah au bout de 3 je suis encore là quoi, même si mon corps enfin voilà, il est passé par des étapes très très compliquées, surtout le dernier cancer, mais oui, enfin voilà, j'ai eu cette chance extraordinaire en fait.
Est-ce que tu t'as jamais ressenti plus tard comme une espèce de sentiment d'injustice?
Non, il n'y a pas le temps pour de l'injustice en fait, parce que justement, faut vivre justement. Enfin, moi tous les jours, il n'y a pas une journée, je crois, qui passe où je pense pas. Bah voilà, je pense énormément dans le service dans lequel j'ai été soignée, surtout petite, enfin surtout le service de pédiatrie. Il y a pas, et j'ai vu en fait, j'ai des compagnons de route qui sont plus là aujourd'hui. Il n'y a pas une journée en fait qui se passe sans que je pense à eux. Donc justement, non, il n'y a pas, je me sens pas coupable en fait. Moi, je vis et c'est chouette. Et justement, je vis aussi pour eux en fait. Je vis pour eux. Chaque chose que je fais, enfin voilà, j'aime bien voyager. Chaque voyage que je fais, mais je pense à eux en fait parce que bah, moi j'ai cette chance-là et je les emmène en fait. Je les emmène avec moi. Ils sont tout le temps avec moi.
Mais ça pouvait. Quand je dis ça, c'est que assez souvent, c'est vrai que les gens, j'en entends beaucoup parler autour de moi. Alors, du fait aussi avec Émilie, d'avoir aussi entendu, d'avoir eu plein de témoignages comme toi. Alors vous, c'est différemment. On est là parce que vous les accompagnez. Nous, c'est vrai que via Soyons Cheyennes, on collecte plutôt de l'argent pour aider la recherche. Mais Émilie fait aussi toujours beaucoup de photos de personnes avec ce même geste. Qu'on met sur les réseaux sociaux, etc. Et donc beaucoup de gens viennent très spontanément, tu vois, nous parler. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent mais pourquoi ça m'arrive à moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que ceci? Qu'est-ce que cela? Et c'est pour ça que je te parle de ce sentiment d'injustice qui se ressent aussi beaucoup lorsqu'on annonce à quelqu'un, à une personne, qu'elle a un cancer, encore plus quand elle est jeune.
Ben bah, oui, mais enfin, c'est vrai que enfin, quand on nous l'annonce, on subit en fait. On est là, on nous annonce ça. Bref, moi, voilà, personnellement, moi, je l'ai subi. Mais après, bah voilà, enfin, pendant les traitements, on subit et on sait qu'on peut avoir un après. Et donc, enfin, non, moi, je suis pas là à dire, enfin, c'est comme ça, c'est comme ça. Et puis voilà, et on avance en fait, on avance. Enfin, petite, voilà, je m'en souviens pas, donc je reviendrai pas dessus. Mais que ça soit ado ou le troisième, bon, après, voilà, le troisième, c'est vrai, je me suis dit, quand on me l'a annoncé, en fait, je me suis dit, ah mince, je l'attendais, mais en fait, pas aussitôt comme ça, pas aussitôt, parce que il s'est écoulé uniquement 8 ans entre le deuxième et le troisième. Ça faisait 2 ans que je vivais à Londres, où j'avais pris plein de kilos, que je m'éclatais, je faisais ma crise d'adolescence que j'ai pas pu faire à 15 ans parce que j'avais un cancer. Donc là, je m'éclatais. Et là, hop, cancer. Je me suis dit, bah mince, c'est pas, enfin, pas tout de suite, quoi. Je me suis dit, il reviendra un jour. Mais là, c'est un petit peu trop tôt, en fait. J'ai pas encore fini mon adolescence tardive, quoi.
Est-ce qu'il y a eu, forcément dans les trois cancers que tu as vécu, quels ont été ou quel a été le moment le plus difficile et le moment le plus joyeux en fait?
Le moment le plus difficile, ça a été j'ai eu une autogreffe à l'âge de 15 ans. Enfin, j'étais plus sur pas loin de mes 16 ans. J'ai eu une autogreffe de cellules souches en avril 2006. Et donc pendant un mois, en fait, j'étais enfermée en chambre stérile et il y avait uniquement que mes parents qui pouvaient rentrer dans ma chambre. Et ça, c'était. Et puis rentrer dans ma chambre, couvert, masque, enfin voilà,
Oui,
tout,
bien sûr.
la tenue de cosmonaute, quoi. Et ça a été très dur, parce que j'étais vraiment. Enfin, je pouvais à peine bouger le petit orteil, et je réclamais énormément mon petit frère qui, lui, ne pouvait pas rentrer dans ma chambre, quoi. Et ça a été. Enfin, le mois pour l'instant, ça a été le mois le plus long de toute ma vie et le plus dur, en fait. Le plus dur.
Et la chose la plus belle qui t'est arrivée à travers le cancer?
Oh, ah mais il y en a plein, mais enfin il y en a mais des tas, bah, énormément dans le milieu associatif, parce que voilà, je suis bénévole ici pour une autre association qui emmène les enfants et les ados à la montagne pendant toute une semaine. C'est une association qui s'appelle À chacun son Everest. La première fois que je suis partie avec eux, j'avais tout juste 18 ans, j'étais tout juste en rémission de mon deuxième cancer. Et je suis partie, moi et mes compagnons, de route de l'hôpital des enfants à Bordeaux. On est partis une semaine à la montagne, à Chamonix, rencontrer aussi d'autres ados qui étaient suivis dans divers centres hospitaliers à travers toute la France. Et pendant une semaine, on échangeait entre nous. Mais voilà, on a fait de l'escalade, on fait du chien de traîneau, de la canirando, plein de randos. Et c'est vrai que cette association-là, j'y retourne maintenant en tant qu'animatrice pour encadrer des séjours enfants. Et il y a ces échanges-là qui se font, parce que la directrice du séjour, quand elle me présente, il y a Laura qui, il y a quelques années, était comme vous, en plein traitement. Elle est venue ici, elle était tout juste en rémission. Et aujourd'hui, elle vient vous encadrer. Et c'est vrai qu'il y a ces échanges-là qui se font avec les enfants. Eux, ils sont tout juste en rémission et ils me voient en disant, ah, maintenant tu vas bien. Enfin, voilà, et c'est des rencontres, mais extraordinaires. Voilà, je parle de cette association-là, mais il y en a plein, il y en a plein. Enfin, je peux pas toutes les citer, mais c'est des rencontres limite au quotidien en fait que je fais. Oui, grâce à la maladie en fait.
Justement, c'était ma question, et on te l'a sûrement déjà posée. Je me rappelle aussi qu'on l'avait posée à Émilie dans d'autres cas, parce qu'elle avait pu rencontrer aussi quelqu'un d'important pour elle, et qui a été pour nous aussi, qui s'appelait Samantha, et qui a été un peu l'initiatrice de notre mouvement Soyons Cheyennes, qui malheureusement est décédée au bout de son, je crois, quatrième ou cinquième cancer. Enfin, c'était assez. Enfin, elle a vécu 9 ans quand même. Entre l'annonce de son cancer et au moment où elle est partie. Mais il y a sa fille, parce que Émilie et Sam étaient très 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 proches, et la fille de Sam, Manon, donc notre filleule, pour le coup, lui avait posé une question un jour, lui avait dit: est-ce que tu penses que c'est grâce ou à cause du cancer que tu as rencontré Émilie? Et évidemment, on peut se poser les questions: est-ce que c'est grâce ou à cause du cancer que tu fais tout ça, ou est-ce que c'est un peu des deux, en fait?
C'est un peu des deux, mais moi, aujourd'hui, j'arrête pas de me dire que j'ai changé ma vie pour rien au monde. Ma vie, elle est extraordinaire. J'ai des séquelles qui peuvent être lourdes pour certaines personnes à accepter, tout ça. Moi, je m'en fiche royalement. Enfin, voilà, tout ce que j'aime dire, en fait, quand je parle du cancer, c'est que, oui, en fait, grâce à lui, j'ai vécu, je vis des choses extraordinaires, en fait. Et ça s'arrête pas là, hein. Enfin voilà,
Bien
j'ai que
sûr.
28 ans, donc je vais continuer d'en vivre en fait.
Est-ce que ça ne te donne pas justement le poids de te dire que, bah, effectivement, je sais encore un peu plus que les autres que c'est éphémère et que c'est encore plus compliqué? Donc, alors, c'est très bateau et très bisounours de dire
Exactement,
ça,
c'est exactement ce que j'allais dire, c'est
mais
trop
non,
bateau, c'est trop.
c'est vrai, c'est vrai, mais t'es pas la première personne que j'entends aussi parler comme ça. Alors, c'est vrai que toi, tu en parles très très librement, et je te poserai la question après pourquoi, mais c'est vrai que quand on a vécu quelque chose de si dramatique, de si dur, on te dit, bah, ta vie est en jeu, en fait, à un moment. C'est-à-dire, t'as 4 ans, t'as 16 ans, t'as 23 ans, ça peut s'arrêter demain. Et que d'un coup derrière, bah, tu arrives à t'en sortir, tu dis, bah ouais, forcément, je vais en bouffer encore un peu plus.
Exactement, parce que moi
C'est comme
j'ai eu.
si, c'est comme si, pardon, excuse-moi, c'est comme si il donnait un petit peu un sens, en fait, à la vie, cette maladie, ce cancer.
Mais exactement, parce que moi en fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai eu uniquement que trois cancers. Et moi, en fait, ce sont uniquement des parenthèses qu'il y a eu dans ma vie. Ma vie, une fois qu'on m'a annoncé que j'étais en rémission, bien sûr, il y a l'après-maladie, hein, ça je le nie pas. L'après-maladie est vraiment très compliquée, que ce soit même enfant, parce que c'est compliqué à l'enfance, même si on n'a pas de souvenirs, c'est compliqué parce que il y a la vie, il y a l'entourage, il y a les parents, leur enfant vient d'être malade, donc c'est compliqué pour eux aussi l'après. Quand on est ado, ok, je viens de perdre un an de collège. Là, je vais refaire ma troisième. En plus, disons que j'avais rien foutu en quatrième, donc j'avais déjà en plus redoublé ma quatrième. Donc, je me dis avec on pourrait refaire tout un monde avec et si, mais si j'avais plus bossé ma quatrième, j'aurais pas déjà perdu un an. Bref. Et après, 23 ans, oui, c'était aussi compliqué cet après-maladie. Voilà, ça faisait 2 ans que je vivais à Londres. Là, je dois retourner vivre en France. De retour chez papa et maman à Cognac, en Charente. Et pendant un an, le temps des traitements, je suis en rémission. Mince, qu'est-ce que je fais en fait de ma vie aujourd'hui? Donc l'après-maladie est tout aussi compliquée. Mais en fait, ben, je m'en tire bien, j'ai mes deux bras, j'ai mes deux jambes, je peux avancer. Donc, allons-y, quoi. Ce sont que, voilà, moi, mes cancers, ça a été que des parenthèses. J'ai eu cette chance-là aussi que je garde des séquelles, certes, mais ces séquelles-là m'empêchent pas d'avancer, quoi.
C'est amusant que tu parles de ça aussi parce que j'ai l'impression qu'en fait, pendant que tu es dans la maladie, tu as un. Alors j'en parle, moi, j'ai jamais été malade, mais j'étais suffisamment prêt pour voir à quoi ça ressemblait et j'étais en couple, ce qui impacte aussi différemment. Et quand on a ce cancer qui arrive et en fait, il donne un sens. Ce qui est très difficile à expliquer aux gens en fait qui n'ont pas qui souffrent pas de cette maladie ou peut-être même d'une autre, enfin qu'importe, mais c'est qu'en fait pendant 4-5 ans jusqu'à ce qu'on me dise bon bah voilà t'étais en rémission, en tout cas c'était le cas pour Émilie, c'est on avait un combat en commun et le jour où on te dit eh ben ça y est c'est la rémission, tu te dis merde, mais contre quoi je me bats maintenant en fait? Et parce qu'en fait, c'est comme si tu étais rentré dans une espèce de logique
C'est ça.
très, très étrange de combat en permanence et de te dire le point d'arrivée, c'est celui-là, je vais y arriver. Et effectivement, une fois que tu y arrives et qu'on te dit bah, c'est sans encombre, tu dis ah merde, peut-être qu'il me donnait aussi comme un sens et comme une motivation. Et en fait, juste derrière, c'est comme si il fallait remettre un peu en place. Plein d'éléments de ta vie pour avancer en fait, parce que c'est comme si le cancer pouvait être un, c'est étrange hein, mais comme un compagnon quoi, tu vois, comme quelqu'un qui t'accompagne et avec qui tu vas faire un chemin pendant un temps et les chemins vont se séparer et quelle que soit la forme de relation que tu as pu avoir avec ce cancer, tu as eu une relation avec lui quand même quoi. Et quand il n'est plus là,
Exactement.
tu passes à autre chose et c'est drôle de passer à autre chose.
Ben, on sait pas, enfin voilà, la rémission, on est content, voilà, on se dit on va pouvoir faire la fête, machin. Mais c'est vrai qu'après, voilà, reprendre le cours de sa vie, bah, sans ce cancer, en fait. Parce que même les médecins, ils nous annoncent qu'on est en rémission, et en fait, ils nous disent, bon, bah, on se revoit dans 3 mois pour le prochain contrôle. Et même moi, en fait, bah, je me dis, bah non, mais dans 3 mois, c'est super longtemps, en fait, enfin, on se voyait presque toutes les semaines, tout ça, enfin.
Allons
Et non,
bon.
maintenant, on se revoit que dans 3 mois, mais non, mais c'est pas possible, en fait. Non, non, moi, je veux retourner à l'hôpital, enfin, c'est parce que pendant un an, ça a été ma résidence secondaire, ça a été ma maison, et j'y étais bien, finalement, j'y étais bien. C'est maintenant, aujourd'hui, quand j'y retourne, bah ouais, je suis à la maison, que ça soit dans le service de pédiatrie ou à l'Institut Bergonié. Ben, je suis à la maison, je fais comme chez moi et je m'y sens bien, je m'y sens bien. Après, voilà, ça c'est mon discours, mais c'est pas aussi quand même, c'est pas forcément le discours de tout le monde, mais moi quand je revois mes médecins, mais voilà, enfin, c'est pour moi mes médecins, c'est mes dieux quoi. Ça fait une vingtaine d'années que je les vois et petite anecdote, la semaine dernière, dans le cadre d'un atelier pour parler de la fertilité, stérilité, fertilité, tout ça, pour les jeunes adultes, on a terminé par une petite soirée pizza. On a mangé des pizzas et il y avait deux médecins. Et dont une, c'était assez marrant quand j'y repensais, donc c'était ouais, la semaine dernière. Et il y a 12 ans, ce même médecin, j'étais en chambre stérile et je le suppliais de me laisser sortir de cette chambre stérile. Et 12 ans après, on se retrouve autour d'une pizza. C'est quand même génial, c'est pas beau ça? C'est pas beau la vie? C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Moi, je me suis dit, mais c'est génial, c'est génial.
C'est vrai que c'est vraiment joli. Et justement, tu en parles vachement librement aujourd'hui de ce cancer. Est-ce que ça a toujours été comme ça? Ou est-ce que tu es passé par différentes phases? Et pourquoi tu en parles aussi librement? Pourquoi tu as décidé d'aller dans toutes ces associations? Pourquoi t'occuper des personnes comme toi? Est-ce que tu penses que c'est une dette? Ou est-ce que pour toi tout est parfaitement normal?
À l'âge de 15 ans, j'en parlais librement. J'allais au collège, j'ai fait le choix de ne pas avoir de perruque. Donc, je mettais juste un foulard comme ça. Et c'est vrai qu'à 23 ans, voilà, nouveau cancer. Ça faisait 2 ans que j'étais à Londres où j'étais vraiment dans mon nuage. Enfin, voilà, c'était pour moi génial, quoi. Je vivais une vie extraordinaire. Et puis, voilà, je faisais plein de choses. Je voyageais pas mal et là tout de suite bah voilà je retourne vivre chez mes parents à Cognac à la campagne en Charente enfin Et disons que ça fait moins rêver. Enfin voilà, hein, j'allais pas me la péter en disant oui, je retourne vivre chez mes parents. Et c'est vrai que je me suis cachée. Je me suis cachée parce que je voulais plus ou moins en fait que tout le monde croie que bah je continuais à vivre ma petite vie londonienne. Voilà, à boire mon thé, à boire mes bières le soir, voilà, des petites choses comme ça. Et petit à petit, en fait, bah, je me suis vachement réfugiée sur les réseaux sociaux. Et je comprenais pas, en fait, ces jeunes, enfin, ces jeunes, moins jeunes, enfin, peu importe, ces personnes qui étaient en traitement et qui racontaient leur vie sur les réseaux sociaux. Je me suis dit, mais c'est quoi? Enfin, c'est un cancer. Enfin, on montre pas qu'on a un cancer comme ça sur les réseaux sociaux. Ça se fait pas, quoi. Et puis petit à petit, et puis c'est vrai que j'ai une copine un jour qui m'a reproché en fait de pas m'ouvrir parce que même mes amis, je leur racontais pas spécialement bah, ce qui m'arrivait quoi. Elles me posaient plein de questions, elles comprenaient pas tout ça. Elles m'ont fait ce reproche-là. Enfin voilà, j'ai une amie qui m'a dit mais Laura, mais ouvre-toi parce que si tu veux, tu nous dis que tu nous fais le reproche qu'on ne comprend pas, mais nous dans le sens inverse, on peut te faire le reproche que tu t'ouvres pas assez à nous, donc on ne peut pas comprendre concrètement ce que tu vis. Et c'est vrai que bah, je me suis ouverte alors au début c'était totalement dans l'anonymat, voilà, j'ai créé bah, le truc à la mode quoi, une page Facebook en décrivant mon parcours. Et puis c'est vrai qu'après bah, petit à petit j'ai commencé à être médiatisée et c'est vrai que je me suis dit bah finalement c'est qu'un cancer, pourquoi on n'en parlerait pas? Pourquoi on n'en parlerait pas quoi? Parce que le cancer finalement c'est pas tabou. Enfin, parlons-en, parce que si on en parle, c'est là que les gens aussi ils vont comprendre que bah faut aller donner son sang parce que c'est important. C'est grâce aussi à ça que moi aujourd'hui je suis en vie. C'est grâce à tous les culots sanguins que j'ai pu recevoir. Oui, c'est grâce à ça quoi. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui il faut en parler. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'en parle librement.
Alors, j'en viens sur mon petit personnage sur le deuxième rituel du Lodcast. Il y a la petite souris. Et la petite souris, c'est un petit personnage qui rentre dans le making-of de la vie des personnes remarquables qui sont invitées sur le Lodcast. Donc, et cette petite souris, si elle suit une journée de Laura Fontaine, qu'est-ce qu'elle va voir quand tu vas, bah, je sais pas, même par rapport à, je sais même pas ton métier, je connais pas ta formation non plus. Et qu'est-ce qu'elle va voir cette petite souris, soit dans ton travail au quotidien, soit dans ton travail aussi avec les différentes associations dans lesquelles tu travailles aussi.
Alors là, admettons, si la petite souris se pointait là tout de suite maintenant chez moi, bah, je pense que ça serait une scène à enregistrer parce que, pour être honnête, je suis à moitié avachie sur mon canapé. Non, alors en fait, c'est que franchement, voilà, mes proches, ils n'en reviendraient pas parce que c'est quelque chose que je ne fais jamais. J'ai un canapé, il sert plus de déco qu'autre chose parce que enfin, j'aime pas m'allonger, j'aime pas m'asseoir dessus. Enfin, c'est une perte de temps. Je suis toujours en mouvement, en fait. Je suis un peu hyperactive, je suis comme une pile, j'épuise même bah, beaucoup de mes proches. Donc là, oui, c'est assez exceptionnel. Mais sinon, bah, ma vie, en fait, elle est plus. Enfin, oui, je suis beaucoup bah, dans les centres hospitaliers et c'est pas uniquement pour l'asso en fait, c'est même pour des projets perso avec les médecins. Enfin, les médecins aujourd'hui me sollicitent en tant que entre guillemets patient experte en fait, bah pour des témoignages, des choses comme ça quoi. Donc ma vie, oui, c'est bah, je vais à l'hôpital des enfants, je vais à l'Institut Bergonié, des conférences, des tables rondes à la fac ou des choses comme ça pour tout le temps communiquer en fait sur le cancer, oui.
Est-ce que tu as suivi après des formations par rapport à ça, ou est-ce que professionnellement il y a quelque chose qui est aujourd'hui en rapport avec tout cet engagement?
Absolument pas.
Je
Vraiment pas. C'est quelque
vends des
chose.
yaourts à la base.
Non, à la base, je travaille avec les enfants, parce qu'au bout d'un moment, le bénévolat, c'est bien beau. Mais voilà, enfin, ce qui s'est passé, c'est que bah, j'ai pas fait d'études, j'ai pas eu le temps en fait. À chaque fois, il y avait un cancer, enfin, qui se pointait dans ma vie, j'ai pas eu le
Merde
temps.
alors.
J'étais aussi un peu fâchée avec les études. Enfin voilà, le lycée, le bac, tout ça, c'est pas toujours très bien passé.
Ouais, bah,
Et
moi j'ai
j'étais
envie de te
fâchée avec
dire,
les.
j'ai envie de te dire, il a bon dos le cancer, hein.
Ouais, je lui mets beaucoup de choses sur le dos. Ouais, je sais, mais c'est ouais. Mais tu connais pas la carte cancer? C'est vrai, t'as pas eu de cancer, tu peux pas savoir. Mais quand on sort notre petite carte cancer, là, à
Oui,
chaque
je vois
fois, c'est
bien.
cool, quoi. Tu vois?
Je vois bien. Tu peux rien me
C'est
dire, j'ai eu un cancer, ouais, je sais.
exactement. C'est génial. Franchement, cette petite carte-là, elle est cool. Elle est pas mal. Franchement, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Donc non, voilà, je suis fâchée avec les études et puis là maintenant, je vais pas dire que je suis trop vieille, mais non, j'ai pas le temps et concrètement, c'est que je sais toujours pas ce que je veux faire à part voilà être dans le domaine. Enfin voilà, tout ce que je fais là, que ce soit pour l'asso ou à titre personnel avec les médecins tout ça, ça me plaît. C'est clair que c'est du bénévolat, donc je mange des coquillettes le soir, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est comme ça.
Oui, tu manges des coquillettes au blé complet
Ah
ou du
oui, tout à
quinoa,
fait.
machin, tu mets du curcuma dedans pour éviter de tomber
Exactement.
malade.
Ah oui, bah oui, bien sûr, oui.
Donc,
Vaut mieux.
tout va bien. D'accord. Donc, la petite souris, elle verrait quelqu'un de très, très actif. Alors, c'est vrai que moi, quand je t'ai rencontré, j'ai vu quelqu'un de super actif. J'ai l'impression que tu es comme un oiseau, tu sais. Il y a ta tête qui bouge dans tous les sens, tout le temps, en permanence. L'impression que tu es à l'affût de tout, qu'il y a une. Puis, tu as ce sourire qu'on entend, là, dans ta voix. Je suis sûr que la personne qui nous écoute. Se dit, bah, incroyable cette nana, elle a un sourire, j'entends que elle est vraiment pleine, pleine de vie. Et je voulais simplement revenir sur tout à l'heure, tu disais, mon corps a des séquelles lourdes, tout ça. Très bien. Laura, comment une fille qui a un corps avec des séquelles, machin, tout ça, qui doit pas peser beaucoup de plus de 50 kilos, on est d'accord?
53 exactement.
Merci,
J'ai
53.
froid.
Oui, tu te laisses aller. Je trouve que tu te laisses aller. Mais
Ouais.
comment on fait pour courir 47 km? Je suis un sportif. Je pratique à peu près 10 à 12 heures de musculation par semaine. Je fais aussi pas mal de cardio. J'ai 15 ans d'athlétisme derrière moi. Je ne cours pas 47 km. Est-ce
pour être honnête.
qu'il faut que j'ai un cancer pour arriver à faire ça?
Bah peut-être, écoute, essaye et puis on en reparle si tu veux après. Hein. Je sais pas moi, je sais pas. Hein, mais pour être honnête, moi, enfin voilà, je te dis, mes cancers pour moi c'est banal, c'est quelque chose de, enfin c'est la routine, enfin genre voilà, c'est comme ça. Je réalise pas en fait ce que j'ai eu, mais par contre je sais reconnaître en fait que mon corps quand même a été énormément meurtri par bah, tous ces produits toxiques, hein, toute la chimio en fait qu'on nous met, qu'on nous ingurgite dans notre pauvre petit corps, hein, alors que lui il a rien demandé. Et c'est vrai que quand j'ai fait ces 47 petits kilomètres, en fait il y a eu une part de fierté dans un sens où je me dis, ah ouais, mais mon corps en fait bah, il se porte bien quoi malgré tout ça. Enfin, même moi, voilà, c'est le seul truc où concrètement j'en reviens pas. Parce que les médecins ont tendance à dire, enfin, plus d'un an après mes traitements, quand j'étais fatiguée, tout ça, on me dit, ah non, mais c'est normal, Laura, attends, t'as eu 3 cancers, t'as eu de la chimio, t'as eu une autogreffe, t'as eu des chirurgies très lourdes. Donc voilà, on mettait toujours tout ça sur la cause du cancer. Donc je me dis, ouais, bah en gros, voilà, je suis renfermée dans le corps d'une mamie, tout ça. Et c'est vrai que d'avoir fait ces 47 petits kilomètres, je me dis, ah non, mais en fait, je suis encore capable de faire plein de choses, quoi. Mon corps, enfin, mon corps est plutôt pas mal, quoi, malgré tout ce qu'il a ingurgité, quoi. Donc, j'étais contente.
Et c'était dans quel cadre ces 47 km?
Ah bah, ça s'appelait la course contre le cancer. C'est pas mal, ça,
Ouais,
non?
c'est bien, c'est bien, c'est bien. Je pense que tu as dû l'épuiser, tu as dû le rattraper plus d'une fois, non, quand même. Le rattraper plus d'une fois, ce cancer, au bout de 47 km, je pense que.
Au bout de 47 km, ouais, mais je suis dégoûtée parce que j'étais troisième sur le podium.
Ah oui, mince.
Bah ouais, et
Et
la personne avant moi avait fait 48 km quand même.
Ouais, mais elle avait eu 5 cancers.
Non, je suis sûre qu'elle n'en avait eu aucun, quoi. J'en suis certaine.
Et est-ce que ça te donne envie, justement, maintenant que tu te dis, bon, bah, ok, mon corps, je mets sa race à Lydia Lloyd, est-ce que ça te donne envie d'avoir d'autres défis de ce style?
Bah ouais, du coup dans la foulée je me suis inscrite pour mon premier semi-marathon, donc semi hein, voilà, parce que bah, et j'aimerais faire parce que là j'avais fait 22, quand j'avais fait la course contre le cancer j'avais fait les 22 km en 1h27, donc 2h27 pardon, non
Oui,
je me
merci, oui. Elle dépasse tous les Éthiopiens et tout.
Non, quand même pas. Et donc voilà, j'avais fait ça en 2h27. Donc voilà, j'aimerais bien faire mon premier semi-marathon, pourquoi pas 2h15 quoi. Donc voilà, ce serait mon prochain petit défi quoi. Mais oui, le sport, enfin voilà, j'en reviens encore à ça, mais c'est vrai que même moi, j'en reviens pas en fait. Comment mon corps arrive encore à faire tout ça en fait.
Bon, on arrive à la fin de cet épisode et comme tu le sais peut-être, je pose toujours à peu près les mêmes questions à tous mes invités. Donc tu y réponds la première chose qui te traverse. Si tu gagnes au loto, quelle est ta première réaction?
Ouais, c'est cool. Après, ça changerait pas non plus énormément grand-chose à ma vie. Et surtout, en fait, je me dirais, vu que je joue pas au loto, qui c'est qui a joué pour moi, quoi?
Ouais, alors si tu gagnes au loto et que ça change pas beaucoup ta vie, tu dois vraiment bien gagner ta vie, tu bouffes autre chose que des coquillettes,
Non, mais c'est vrai, enfin, voilà, je pars du principe, enfin, on n'a pas besoin des 100 et des 1000 pour être heureux, quoi. Enfin, je sais pas, je suis bien là dans mon petit appart de 46 mètres carrés, voilà quoi.
Y a-t-il un livre, un film ou une chanson qui a changé ta vie?
Oula, là comme ça, au tac, allez, je vais dire Ne partez pas sans moi de Céline Dion. Il y en a qui vont se marrer, mais ouais.
Mais qu'importe, non, ça t'appartient.
Non, non, mais il est proche.
Si aujourd'hui tu t'occupais pas de toutes ces personnes atteintes de cancer, tu ferais quoi?
Je partirai en voyage, je ferai un tour du monde. Ouais.
Quel est ton plus bel échec?
Oh, ma stérilité.
Parce que j'adore beaucoup ça, j'aime que ça te fasse rire derrière en plus.
Mais c'est la question en même temps, mon plus
Ben
bel
oui, mais
échec, quoi.
justement. Mais non, mais c'est très intéressant justement, parce qu'il y a des,
Ah ouais, non
j'ai plein de
mais ouais.
réponses très très étonnantes. J'en ai qui me disent mon couple, ou j'en ai qui me disent voilà, j'ai plein d'échecs extraordinaires qui me permettent d'avancer, d'aller plus loin, etc., etc. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette question. Quel est ton endroit préféré au monde?
Londres.
Il y a un mot américain qui s'appelle le motto, qui est une espèce de motivation au quotidien, comme une devise. Est-ce que tu en as une?
Ah oui. Alors, j'en ai une. Attends, faut que je la retrouve. Ah oui. Je sais pas franchement de qui c'est. C'est ma maman qui m'a sorti ça une fois. Et depuis, c'est vrai que je l'utilise énormément. Ben en fait, c'est. Attends, faut que je le reformule. La vie, c'est ce qui arrive quand on avait prévu autre chose. J'aime bien ça. Ça me parle bien.
Et enfin, quel est ton mot préféré?
Mon mot préféré, juste pour le fun comme ça, pour le dire, anticonstitutionnellement.
Est-ce que tu tiens encore un blog, un Facebook à jour, etc., aujourd'hui?
Non, enfin, voilà, c'est plus du tout à l'ordre du jour en fait. C'est toujours actuel, c'est toujours publié, hein, mais la page n'est pas fermée, mais je ne publie vraiment plus rien
Et
dessus.
la page s'appelait comment?
La page s'appelait Et si moi aussi je racontais mon histoire?
D'accord. Donc si on veut découvrir ton histoire qui date d'il y a un petit peu longtemps maintenant,
Ouais, exactement.
on peut toujours aller dessus.
Oui, voilà.
Bon, en tout cas, merci à toi énormément, Laura, d'avoir entraîné cette nouvelle dizaine du Lloydcast, parce que maintenant, effectivement, j'ai envie d'aller vers des personnes, comme on dit, entre guillemets, de la société civile. Et
Oui.
moi, je voulais vraiment commencer cette nouvelle dizaine par toi, parce que je trouve, voilà, tu es une personne, des plus remarquables, et j'aime cette, vie incroyable qu'il y a en toi, parce que d'ailleurs, c'est ce que tu m'as dit quand on a préparé ce podcast. Je t'ai dit, tu te drogues à quoi tu m'as dit?
Ah bah au bonheur, à la vie, à tout, enfin ouais, tout ça quoi. C'est tellement merveilleux.
Voilà. Donc
C'est ça que tu avais dit?
c'est tu m'avais dit ça. J'avais dit c'est génial. Cette fille est un bisounours entier.
Connais pas l'ivresse au bonheur?
Et tu sais, moi je suis quelqu'un de trop mélancolique. Hein. Moi le bonheur ça me fait chier. Donc
Ah ouais, mais non, mais tu sais, le bonheur, c'est pas aller chercher quelque chose très loin. En fait, le bonheur, c'est pas gagner au loto. Le bonheur, c'est, je sais pas, manger une part de cheesecake. Bon, c'est vrai qu'on va croire que je rapporte tout à la bouffe,
Mais c'est pas
mais
faux,
non,
c'est pas faux, c'est pas faux.
le bonheur, c'est écouter tout simplement une musique qu'on apprécie. Enfin, c'est ça. En fait, c'est juste ça, le bonheur. C'est simplement ça, c'est apprécier toutes ces petites choses du quotidien.
Ouais, tout à fait. Non, en fait, il y a quelque chose pour donner une petite touche philosophique à ce que tu dis. C'est ça la définition pure de l'épicurisme. L'épicurisme, c'est pas bouffer ou baiser jusqu'à plus soif. C'est au contraire faire le choix entre les besoins naturels et les besoins qui ne le sont pas, et se réjouir de tous ces beaux petits, de plein de petites choses qui sont à notre portée, et pas celles qui sont pas à notre portée, justement.
Mmh,
Donc,
exactement.
tu es une vraie épicurienne.
Si tu le dis.
En tout cas, donc en fait, mais c'est bien, tu sais qu'à la fin de cet épisode, tu es une épicurienne Avengers.
Ah bah alors là, ouais, ça c'est un terme qu'on ne m'avait jamais donné, donc écoute,
Tu
je
pourras
vais
le
le
mettre sur ton
noter.
CV, tu pourras le mettre sur ton CV,
Exactement.
je te le
Ouais,
laisse.
c'est cool.
Donc
Franchement, c'est cool.
vraiment, vraiment encore une fois, merci à toi d'avoir participé à cet épisode.
Bah merci à toi de m'avoir invité.
Mais
Surtout.
ce fut un plaisir. Quant à toi, la compagnie, on se retrouve donc jeudi, non pas la semaine prochaine, puisque maintenant c'est un tous les 15 jours que tu pourras retrouver. N'hésite pas à commenter cet épisode sur PodCloud, sur Apple Podcast ou autre plateforme, y compris sur mes réseaux sociaux. On se retrouve donc dans 15 jours et d'ici là, porte-toi bien. Salut, la compagnie.